C'était quoi les règles d'écriture?
Ah ben les règles d'écriture, ils nous donnaient un sujet, parce que dans le journal, il y avait l'actualité du jour, les faits divers, etc. Et chaque stagiaire prenait un fait divers, généralement. Alors on faisait le papier, genre quatre voix, et puis on lui donnait la copie.
Ouais.
Il relisait, il corrigeait, il nous expliquait, et puis hop.
Qu'est-ce qu'il t'a donné comme conseil? Est-ce que tu te souviens de ce qu'il t'a dit?
Oui, de faire bref et naturel. Ne pas essayer d'écrire. Naturel. Mais c'est ce que nous disait aussi, il y avait un type formidable que j'ai connu sur la fin de sa vie, qui était au journal, qui était Claude Thérien, ouais, de Freninville. Pareil, la première fois que je suis allé à l'antenne, c'était un matin tout à fait par hasard, dans le cadre du journal de Pichon. Lui faisait son petit édito qui durait pas très longtemps, mais enfin c'était quand même 2-3 minutes. Et il était à l'entrée du studio, il regarde mon papier, il me dit: vous l'avez en tête là le papier? Je dis oui, bien sûr, je l'ai en tête. Bien, mais c'est parfait, tac.
Il te déchire?
Non, il ne le déchire pas, il le froisse. Et hop, poubelle, allez-y. C'est comme ça que ça se passait. Alors bon, avec des hauts et des bas, parce qu'effectivement, quand on n'est pas vraiment formé, c'est pas évident, mais c'est la seule façon d'apprendre. Parce qu'il y avait quand même, à cette époque-là, il y avait beaucoup de directs, hein, c'était pas comme aujourd'hui, hein, tout se faisait en direct. Même le moindre petit fait divers, le matin, conférence de rédaction... Pour faire un petit fait divers de rien du tout à 400 bornes de Paris, on allait sur place, on faisait les choses. Nagra, micro, on montait, parce qu'on nous apprenait à monter dans la bagnole sur le Nagra, et c'était les cours pratiques, ça, avant de passer aux autres choses.
Alors, avec les autres jeunes reporters, il y avait une sorte d'émulation. Il y avait quoi? Il y avait un...
Ouais, les autres reporters...
C'était qui, alors? Était concurrent?
Alors, il y avait 3-4 noms. C'était toujours les mêmes, hein, parce que... il y avait Pelletier, Barreau, enfin les quatre
Pelletier,
noms...
Pelletier, c'est le nom de code des...
Voilà,
des
Barreau jeunes, aussi, hein. Barreau aussi. C'est pour ça que moi, on m'a appelé Barbier, parce que les quatre noms étaient utilisés. Et Arnaud m'a dit, tu t'appelleras Barbier. Et puis finalement, je l'ai gardé, Barbier. Voilà, c'était ça. Alors qu'il y avait, il y a des gens qui ont fait leur chemin depuis. Hein. Il y avait Patrice Laffont, par exemple.
Ah ouais.
Il y avait Patrice Laffont.
Et lui, il était spécialiste de quelque chose ou vous étiez tous un peu multicarte.
Ouais.
Tu faisais aussi bien fait divers.
On était les petits apprentis à tout faire.
Et tu faisais de la politique aussi bien que des faits divers.
Non, rarement.
Que du sport.
Rarement. Oui, ça m'est arrivé, par exemple. Quand Jean-Paul Sartre, ça n'avait rien de politique, mais c'était entre la politique et le fait divers. Quand Jean-Paul Sartre a refusé le prix Nobel, on m'a envoyé là, mais finalement j'étais le seul à ramener Jean-Paul Sartre qui m'expliquait pourquoi.
Comment t'as fait?
Parce que j'ai planqué 2-3 jours devant chez lui, et une fois il prend un taxi, je suis monté dans le taxi avec lui. Je suis monté dans le taxi avec lui et il m'a dit très gentiment qu'il n'avait pas le temps.
Et c'est carrément, t'as ouvert la portière.
Ouais, ouais. Et ça, je m'en souvenais plus, c'est Jouffa qui me l'a rappelé. Et il dit, on verra ça demain. Et le lendemain matin, parce qu'il y avait la meute hein, devant chez lui, là-bas à Montparnasse. Et le lendemain matin, il est sorti de chez lui, il est venu direct. Et j'ai fait la petite interview de Sartre où il m'expliquait pourquoi il refusait le Nobel malgré le chèque conséquent qui allait avec, etc.
Enfin, quand même, t'étais quand même assez souvent dans des bons coups, toi, alors.
Oui, non. C'est dû à quoi, enfin bon, je m'en suis toujours bien tiré, voilà. C'est le coup de bol, hein, le coup de bol.
Non, enfin, le bol, il est aussi provoqué, hein, là, visiblement.
Oui, j'osais des choses que je ne ferai jamais, que j'ai jamais refait, que je n'aurais jamais osé refaire et que je ne referai jamais. Parce que foncièrement, je suis plutôt timide. Mais bon, c'était comme ça. Mais ça, c'était l'école Gorini, quelque part. Hein.
C'est Gorini qui vous disait d'y aller?
Ah bah oui, parce que si on ne ramenait pas ce qu'il fallait, ça allait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et puis après, bon...
Qu'est-ce que tu te souviens de Gorini? Quel est le plus beau compliment qu'il t'ait fait? Est-ce qu'il t'a fait un compliment, déjà?
Ah ben Gorini, non. non, compliment, non, non. Mais le plus beau compliment que faisait Gorini, c'est quand on ramenait un bon petit truc, parce qu'on était stagiaire, donc la pige, en attendant d'être engagé, on était stagiaire pendant 3 ans par rapport à la commission de la carte, bien évidemment, mais par rapport à la maison, c'était minimum 1 an. Donc avant d'être engagé, il y avait 1 an comme ça de... Et le plus beau compliment qu'il faisait, comme on touchait très très peu d'argent à l'époque, le plus beau compliment, c'était il faisait une petite prime quand on ramenait quelque chose de très intéressant.
Il doublait, non, me disait.
Oh, il disait, c'est doublé. Peut-être pas le mot, mais il y avait une petite prime. Il y avait un encouragement à faire mieux, quoi. D'accord. Voilà, hein, c'était ça.
Et c'était lui, ton supérieur direct, c'était avec lui.
C'est le patron de la rédac, oui.
Oui, mais est-ce que ton chef direct, c'était lui?
Oui, il était là tout le temps. Il s'occupait de tout, genre. Hein. Il était un fonceur, hein. Petit mais énergique, hein. Non, et puis il y avait un autre personnage, moi, qui m'a beaucoup aidé, un type fabuleux pour qui j'ai beaucoup d'admiration, paix à son âme, c'était Jacques Paoli, qui était un type formidable, et qui avait le don de bien expliquer les choses. Puis il y avait Georges Filiou aussi, tout ça. Il y avait une rédaction très hétéroclite, des gens qui étaient de tendances très différentes les unes des autres, mais des gens très, très humains, voilà, très, très humains. Il fallait pas emmerder le monde, il fallait faire ce qu'on avait à faire, et ça allait. Mmh. Voilà comment ça se passait à l'époque au journal.
Alors toi, tu étais déjà, donc, comme tu sortais beaucoup, parce que tu parles Gorini, quand même, quand t'as... C'est quoi l'histoire du mariage de Bardot? Rappelle-moi ça.
Quand elle a épousé Günter Sachs. Quand elle a épousé Günter Sachs, c'était un 14 juillet, enfin, ou la veille du 14 juillet, enfin, week-end de 14 juillet, et tout le monde courait après l'interview de Bardot. Et à la rédaction, il y avait des gens qui la connaissaient bien, je pense notamment à Jacques Ourevitch. Et l'heure, 8h, rien, bon, et Gorini m'attrape à la sortie du 20h, là, du journal à 80 d'Arnaud, ou qui connaissait du monde un petit peu, ramenez-moi l'interview de Bardot. Non, bon, d'accord. Et j'ai appelé un copain qui était Philippe Dexéa, qui était un ami de Brigitte Bardot. Je lui ai dit, écoute, il faut que je fasse un téléphone avec Brigitte Bardot sur le mariage. Ah, mais t'as qu'à l'appeler. Je l'appelle où? Elle me dit, ben, appelle-la, elle est au Mexique. Bon. Je l'ai appelée, alors avec les décalages horaires, je l'ai pratiquement réveillée, quoi. Je l'ai pratiquement réveillée, elle m'a fait une interview, ça a duré, je sais pas, c'était 20 minutes de téléphone absolument démente, que tous les journaux ont repris, Paris Presse en a fait sa dernière page, enfin c'était... Et là, Gorini m'a fait une petite prime.
Oui, encore.
Non, mais c'est surtout qu'il a été bluffé parce que je lui avais ramené l'interview, il m'avait demandé ça genre, il devait être 20h, 20h15, et... Trois quarts d'heure plus tard, une heure plus tard, c'était sur son bureau, quoi.